7 jours en mai qui nous chantait Juste le ciel.
Alors, allons-y avec la portion culturelle, une lecture d'un texte dans Le Devoir, des avant-premières en série. Le festival Cinéma Paradiso convie le public à voir en primeur 9 films attendus cette année. C'est Marie-Lise Rousseau qui écrit le texte. On le répète ad nauseum, le public a déserté les salles de cinéma au profit des plateformes numériques comme Netflix et Hulu qui permettent de vivre sa cinéphilie sous la couette. Qu'à cela ne tienne, le nouveau festival Cinéma Paradiso fait le pari de convaincre les amateurs du 7e art d'enfiler leurs bottes et leurs manteaux, question de pouvoir s'enorgueillir d'avoir vu avant tout le monde des films attendus avant leur sortie en salle. C'est inusité au Québec qu'un distributeur organise son propre festival de cinéma. La branche locale du distributeur français MK2 s'est inspirée du festival homonyme parisien pour créer son édition montréalaise. Une mini version, explique la directrice de la distribution de MK2 Myland, Ariane Giroux-Dallaire. Évidemment, en diffusant en primeur 9 films tirés de son propre catalogue, il y a là pour le distributeur une occasion de promouvoir la sortie en salle de ses titres, prévus au courant de 2018. MK2 Myland y voit surtout une occasion de combler un vide dans l'offre de cinéma international, national, quelques mois après la saison des festivals à Montréal. C'est l'idée d'une rentrée culturelle, soutient Mme Giroux-Dallaire. On voit beaucoup de films américains en janvier à l'approche des Oscars. On avait envie de présenter autre chose. Autre chose, c'est notamment des discussions qui accompagneront la projection de 2 titres. Celles-ci sont organisées par le Centre Phi, partenaire et hôte de l'événement. La première sera animée par le cinéaste Kim Nguyen. Ce film met en scène après l'atelier de Laurent Cantet. L'atelier, c'est le titre du film de Laurent Cantet qui a déjà réalisé Entre les murs. Ce film met en scène un groupe d'élèves éprouvant des difficultés d'apprentissage qui doivent rédiger un roman au cours de l'été dans le cadre d'un atelier d'écriture. En plus de parler de son processus de scénarisation, le réalisateur québécois offrira un bref atelier de rédaction. L'autre discussion suivra la projection d'un film pas facile, mais drôlement important, la coproduction franco-belge « Une famille syrienne » qui dépeint le quotidien d'une famille aisée, refusant de fuir son pays déchiré par la guerre. Cinéma Paradiso, dont le nom est un clin d'œil au classique du cinéma italien, se veut une fête du cinéma. C'est pourquoi l'événement a rassemblé certains de ses titres par thématique. Les longs-métrages « La confession » et « L'apparition » traitent de religion, tout en étant des films très différents. L'un est une romance, l'autre est une enquête journalistique. Les amateurs d'art visuel seront servis par le doublé Gauguin et Rodin. Le festival qui en est à sa première édition montréalaise deviendra-t-il un événement récurrent au calendrier des cinéphiles? On aimerait que ça devienne un rendez-vous annuel ou bisannuel, en faire une fête du cinéma qui investit un lieu et qui permet au public de recommencer ou de continuer à aller voir des films en salle, répond Ariane Giroux-Dallaire. Bien entendu, elle prêche pour sa paroisse. Il reste que la baisse de la fréquentation des salles est bien réelle et qu'elle est alarmante pour l'industrie. Avec Cinéma Paradiso, les organisateurs souhaitent rappeler qu'il n'y a rien comme le silence et la noirceur d'une salle de cinéma pour plonger tête première dans la magie du 7e art. Cinéma Paradiso, du 29 janvier au 3 février, au Centre Phi. PHI. Sortie week-end, des suggestions dans Le Devoir. Le plein air, si vos skis dorment encore dans le placard avec les décorations de Noël, c'est l'occasion de leur faire prendre l'air. Pour une deuxième année, les 13 parcs nationaux du Québec ouvrent gratuitement leurs portes samedi dans le cadre de la journée d'hiver de la CEPAC, un moyen de célébrer la blanche et longue saison. Chaque parc aura ses activités spéciales, rallyes, contes autour du feu, randonnées guidées et raquettes, et la location d'équipements, de même que l'accès aux sentiers de raquettes et de ski de fond, seront gratuits de l'Abitibi à la Gaspésie. Samedi, toute la journée, aussi au camp Mercier, au centre touristique du lac Simon et à la station touristique du Chesnay. Vous l'aviez manqué lors des dernières journées de la culture, l'installation audio-littéraire Cabane au pluriel, formée de 4 maisons de bois où sont mises en scène des histoires reliées à des émotions, reprend vie à la librairie Monette, modus operandi. Les enfants s'installent, écoutent, observent et se laissent transporter par les couleurs, les mots et les personnages durant 6 à 8 minutes. À noter que l'équipe derrière le projet mènera des animations de 9h à 18h jusqu'au 13 février, au 2752 rue de Salaberry à Montréal, donc à la librairie Monette. Les grands classiques à l'honneur. Maestro Kent Nagano visitera une fois de plus les œuvres de grands compositeurs pour la 7e édition de la Virée classique OSM du 29 août au 2 septembre. Parmi celles-ci, des extraits des opéras de Wagner, le folklore des compositeurs Brahms, Kodály et Bartók, dont le concerto pour violon numéro 1 sera également au cœur d'un grand concert qui braquera les projecteurs sur la violoniste Patricia Kopaczynskia. Piquet Souben était de passage sur le plateau du Daily Show avec Trevor Noah mercredi sur les ondes de Comedy Central. L'ancien défenseur du Canadien de Montréal, évoluant désormais au sein des Predators de Nashville, y est revenu sur son enfance à Sudbury en Ontario, mais aussi sur le don de 10 millions à l'hôpital de Montréal pour enfants en 2015. « Je n'ai pas donné pour que les gens disent « wow », mais pour faire une différence », a-t-il expliqué. Changement de garde au poste de poète officiel du Parlement du Canada, George Eliot Clark a cédé sa place à Georgette Leblanc, qui fera résonner ses mots pour les 2 prochaines années. L'auteur du Grand Feu, mais aussi d'Alma et de Prudent, entend profiter de cette tribune pour célébrer et faire connaître la langue poétique, cette parole individuelle qui enchante et régénère les 4 coins de ce nouveau monde. Née à Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec, Georgette Leblanc a grandi dans la région de la baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse, devenant une voix forte de la culture acadienne. Elle a été choisie par les présidents du Sénat et de la Chambre des communes sur la recommandation d'un comité de sélection présidé par la bibliothécaire parlementaire Sonia Lheureux. Et finalement, le Bureau de la concurrence poursuit Ticketmaster et sa société mère, Live Nation Entertainment, pour avoir eu recours à une pratique présumée trompeuse, connue sous le nom d'affichage de prix partiel. Dans une déclaration transmise jeudi, l'organisme fédéral a fait valoir que les prix annoncés par Ticketmaster étaient trompeurs pour les consommateurs puisque ces derniers voient divers frais s'ajouter à leurs factures plus tard dans le processus d'achat. Selon le bureau, cet affichage de prix partiel force souvent le consommateur à payer plus de 20 % de plus que le prix annoncé. Dans certains cas, ces frais atteignent plus de 65 % L'organisme précise que des déclarations présumées trompeuses ont été faites sur les sites Internet ticketmaster.ca, ticketsnow.com et ticketweb.ca, ainsi que sur des applications mobiles. Le bureau demande ainsi au tribunal de la concurrence de faire cesser ces pratiques publicitaires et d'imposer une sanction administrative pécuniaire aux entreprises.
Tu es l'excès et la faille, un éclat cercel dans la grisaille. Tu as la beauté de l'âme quand l'aurore s'effondre sous trop de néant. Et je sais que les mots
Il s'appelle le Nini Marcel et c'était Je loge à ton enseigne.
C'est à la une du Devoir aujourd'hui. Santé publique, mortelle solitude, l'isolement est un tel fléau que la Grande-Bretagne lui a consacré un ministère. C'est un article d'Isabelle Paré. Le Royaume-Uni vient de créer un ministère consacré à la solitude, une réalité aujourd'hui considérée comme un problème de santé publique aussi criant que le tabagisme ou la cigarette. Gros plan sur un fléau qui touche aussi le Québec. La première ministre de Grande-Bretagne, Theresa May, a surpris l'opinion publique en désignant sa ministre des Sports, Tracy Crouch, titulaire d'un tout nouveau ministère de la solitude. Le gouvernement britannique veut prendre à bras-le-corps une réalité qui touche 9 millions de sujets de la reine et fait peser un très lourd fardeau sur le système de santé. C'est que plusieurs études ont apporté ces dernières années de l'eau au moulin de ceux qui affirment que la solitude ne mine pas que la santé mentale de ceux qui en souffrent, mais aussi leurs conditions physiques. Au Royaume-Uni, de récentes recherches faites par Age UK un organisme d'aide et de recherche sur le vieillissement, ont révélé que la solitude frappait 15 % des personnes âgées et qu'au moins 200 000 aînés n'avaient pas parlé à des proches ou des amis depuis plus d'un mois. Interrogé au lendemain de l'entrée en poste de la nouvelle ministre, le directeur général de Age UK, Mark Robinson, a résumé l'ampleur du problème en affirmant que la solitude est plus mauvaise que 15 cigarettes par jour. C'est aussi ce que démontrent plusieurs études récentes confirmant les effets délétères de l'isolement sur l'espérance de vie. Dès la fin des années 1980, des liens avaient été tracés entre la qualité de la vie sociale des individus et la longévité, mais une méta-analyse de 148 études réalisées en 2015 sur plus de 300 000 personnes a définitivement hissé l'isolement dans le lot des facteurs de risque potentiellement mortels. L'étude conclut que le déficit amical serait aussi toxique pour l'être humain que le tabagisme ou l'alcoolisme. Pire, vivre isolé serait plus dommageable pour la santé que le manque d'activité physique ou l'obésité. Toutes ces études le prouvent. L'interaction sociale est la pierre angulaire de l'espérance de vie et a plus d'impact sur la santé que la génétique, l'argent, le type d'emploi ou même le taux de cholestérol, affirme le Dr Martin Junot, cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie. Après avoir suivi des milliers d'individus depuis 75 ans, l'Université de Harvard conclut elle aussi que les liens sociaux sont de loin les facteurs les plus prédictifs de la santé d'une personne, ajoute ce médecin. Somme toute, l'isolement double le risque de mort prématurée. En plus des effets psychologiques, la carence de contact humain ou leur piètre qualité entraîne un état de stress qui perturbe les processus physiologiques, notamment la pression sanguine et le taux de cortisol dans le sang. Autant de facteurs qui endommagent les vaisseaux et le cœur, explique le cardiologue. Les études réalisées sur les zones où vivent le plus de centenaires dans le monde démontrent que ces personnes sont souvent très bien entourées. C'est le cas à Okinawa, au Japon, où une tradition ancestrale oblige les femmes âgées à rencontrer 5 amis par jour. Ces habitudes de vie combinées à d'autres ont un impact majeur sur l'espérance de vie, dit-il. Comme médecin, je le constate aussi chez mes patients qui ont eu une crise cardiaque il y a 25 ans. Ceux qui ont toujours une bonne relation de couple, de belles relations avec leurs enfants ou leurs amis, sentirent beaucoup mieux aujourd'hui que ceux qui sont seuls, note le Dr Junot. Malheureusement, dit-il, aucun programme du ministère de la Santé ni aucun des budgets des hôpitaux ne s'intéresse à cette réalité. Malgré l'accumulation des preuves scientifiques, les sommes investies dans la prévention des facteurs de risque associés à la mort prématurée demeurent dérisoires. Le nombre de personnes vivant seules, propulsées par le vieillissement de la population et le divorce, est à la hausse au Québec, où un ménage sur trois se compose désormais d'une personne seule, selon le Conseil des aînés. Chiffrer l'isolement social est par contre une tâche complexe, puisque des gens vivant seuls peuvent jouir d'une vie sociale riche alors que d'autres, bien qu'entourés, souffrent de solitude, explique le professeur André Tourigny, médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec. J'ai l'impression que notre situation se compare à celle du Royaume-Uni, avec environ 15 % de personnes isolées. Si la solitude est un problème influencé par des facteurs personnels comme l'état de santé, le revenu, la présence ou pas de famille, elle dépend aussi de facteurs externes qu'on peut influencer, comme l'aménagement urbain ou l'accès au transport, affirme cet expert, aussi co-directeur de l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l'Université Laval. La réponse à ce fléau trouve déjà des échos ici au Québec, où des projets inspirés des guides de pratique britanniques ont été lancés dans deux secteurs de la vieille capitale par le collectif NEIS-IS pour isolement social. Quatre organismes bénévoles ont obtenu 1,6 million de dollars l'an dernier du gouvernement fédéral pour dépêcher des sentinelles dans les centres commerciaux, les Tim Hortons et les McDonald's pour dépister les aînés à risque d'être isolés. Plus de 9 millions ont aussi été investis depuis 2012 par le secrétariat aux aînés pour financer des projets visant à rejoindre les aînés considérés comme vulnérables. Le choix des cheveux blancs, Olivia Lévy. Oseriez-vous abandonner la coloration et laisser les cheveux blancs devenir graduellement majoritaires sur votre tête? Faut-il être plus courageuse que la moyenne, ne pas avoir peur de vieillir, en finir avec la teinture ou encore suivre la tendance du retour au naturel? De plus en plus de personnalités assument leurs cheveux blancs. Helen Mirren, Glenn Close, Jamie Lee Curtis, Diane Keaton, la directrice générale du Fonds monétaire international, international Christine Lagarde, et la première ministre britannique Theresa May. Plus près de nous, il y a entre autres Marie Laberge, Louise Latraverse et Louise Forestier. Pour les femmes, arrêter de se teindre les cheveux n'est pas une décision à prendre à la légère. Le plus difficile est la transition et le processus peut être long. La journaliste et romancière française Sophie Fontanelle en témoigne dans son livre « Une apparition », dans lequel elle raconte sa transformation lorsqu'elle a décidé à 53 ans d'arrêter la coloration. « Je fais un métier d'image et le plus difficile a été d'assumer cette phase de transition, d'avoir les cheveux à moitié blancs et bruns, une allure zébrée, car lorsque la racine blanche repousse, on a l'impression d'être sale et de se laisser aller », dit celle qui qualifie sa chevelure de « blonde », qui veut dire « blanche » en version « blonde ». Il est possible de faire autrement que de laisser pousser pendant 2 ans ses cheveux blancs. On peut les couper ou les colorer en faisant des mèches dans des teintes plus claires pour harmoniser les repousses blanches avec le reste des cheveux, explique Alvaro, copropriétaire du salon Alvaro Coiffure. Celui qui est coiffeur depuis 40 ans estime que la société est plus ouverte aujourd'hui aux cheveux blancs qu'il y a 10 ans. Il prévient cependant les femmes qu'il faut qu'elles soient prêtes à passer au blanc. Le blanc est lumineux et peut-être majestueux, mais je vois beaucoup de femmes qui hésitent, qui ont peur de ce changement. Je les encourage à le faire, dit Alvaro, le coiffeur. Il conseille d'utiliser un bon shampoing pour cheveux argentés, car les cheveux blancs peuvent jaunir. Il confie qu'il s'est lassé lui aussi de la teinture. Je suis très heureux d'être blanc à 60 ans. Guylaine Martel, directrice artistique chez L'Oréal, professionnelle et dans le métier depuis 34 ans, elle remarque qu'il y a une mode de la coloration silver ou gris métallisé chez les jeunes de 18 à 28 ans. Pour ce qui est des femmes plus mûres, elle indique que ce retour aux cheveux blancs touche une minorité de femmes. Je dirais que plus de 85 % des femmes qui essaient le blanc reviennent à la couleur et il faut ouvrir le salon un dimanche car il y a urgence, dit-elle. Elle pense qu'il faut vraiment avoir une belle texture de cheveux pour les laisser blancs. Sophie Fontanelle découvre pour sa part que les cheveux blancs qui apparaissent sont tout simplement magnifiques. Lina Vandal, 65 ans, a les cheveux blancs depuis 10 ans et regrette de ne pas avoir osé le changement plus tôt. « J'ai rajeuni, c'est une libération », lance Mitsou Plour de 46 ans. Elle s'est souvenue qu'elle avait le choix. « Je vivais entre 2 rendez-vous chez le coiffeur tous les mois, car j'allais faire ma couleur comme j'allais faire mon épicerie. » Je ne me posais même pas la question, dit celle qui, depuis 2 ans, a les cheveux ambrés. Tout le monde lui disait, tu es trop jeune pour avoir les cheveux blancs. Pas avant 55 ans, parce qu'il y avait un âge minimum pour les cheveux blancs. J'avoue que ça a été un élément déclencheur. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens de ce vendredi 26 janvier, le mois de février qui approche à grands pas. Ici Hélène Denis qui vous souhaite un agréable week-end. Profitez-en bien. Il n'y aura pas de soleil, mais ce sera très doux. Température printanière pour demain et dimanche. Alors, on va profiter pour pelleter peut-être si on avait laissé ça en plan. Bonne fin de semaine. Et puis, merci aussi à Mathieu Tessier à la mise en onde et aussi au choix musical, sauf pour la chanson de Marjo. À lundi.